Bonjour Morvan Lallouette.
Bonjour.
Dans votre livre, Navalny, vous dressez un portrait de l'opposant russe en analysant les trois périodes fondatrices de sa vie, le blogueur anticorruption, l'homme politique et le contestataire qui va devenir l'acteur central d'une opposition fragmentée. Vous écrivez que Alexis Navalny est une personnalité politique complexe. Alors, qui est-il réellement?
Alors déjà, je dirais que nous, on essaye de se garder de répondre à la question de qui est réellement Alexei Navalny, hein, puisque c'est un homme encore jeune qui a, on l'espère, encore une carrière politique devant lui. Donc
il
on
a 45
prétend
ans,
pas...
je le précise.
Voilà, et donc on préfère éviter de prétendre répondre définitivement à cette question. Et ce qu'on essaye de faire dans ce livre, c'est justement en se focalisant sur un peu ces trois dimensions du personnage, mettre en lumière ses complexités politiques, puisque c'est quelqu'un qui a relativement varié dans ses programmes politiques, dans ses stratégies politiques. Et donc, on essaye de montrer comment, à partir d'un certain nombre de convictions assez précises, c'est-à-dire la lutte contre l'autoritarisme, la lutte contre la corruption et la lutte pour l'instauration d'une démocratie et d'un état de droit en Russie, Navalny a construit une carrière et des organisations politiques qui sont aujourd'hui menacées.
Il commence à se faire connaître effectivement en tant que blogueur anticorruption, alors qu'il est un petit actionnaire dans des grosses entreprises russes.
Oui, alors c'est effectivement ce qui le fait connaître début, milieu des années 2000, où il va utiliser son statut d'actionnaire minoritaire dans tout un tas de grandes entreprises russes, dans le but d'exiger de la transparence au sein de ces entreprises, sachant que ces entreprises qui sont, comme très souvent en Russie, souvent liées à l'État. Et il va ensuite se servir d'une plateforme de blog qui est à l'époque très populaire, qui s'appelle LiveJournal, pour rendre public, si vous voulez, ses premières investigations, ses premières découvertes sur ces grandes entreprises russes. Très progressivement, en fait, il va construire une organisation. Une des premières d'entre elles s'appelle Rospil et elle est dédiée aux fraudes dans les marchés publics en Russie. Et au tout début des années 2010, il va commencer à recruter des juristes, des diplômés de sciences politiques qui vont l'aider dans cette tâche. Une des caractéristiques de Navalny, c'est qu'il va réussir à agréger autour de lui une équipe de gens jeunes qui partagent sa détestation du système en Russie et une équipe qui va, on peut l'espérer, continuer son œuvre alors que lui-même est en prison.
La deuxième époque de la vie de Navalny, c'est donc quand il essaie de fédérer l'opposition en Russie avec des succès, avec des échecs. La personnalité de Navalny est-elle une des raisons de ses succès, voire de ses échecs?
Alors, c'est un terme qu'on essaye un petit peu d'éviter dans le livre, mais je pense qu'on peut le dire que Navalny est une personnalité charismatique. Et ce qu'on essaye de raconter dans ce livre, c'est un petit peu la construction de ce charisme et le fait que Navalny, au fil des années, va développer un style assez personnel qui tranche avec celui des hommes politiques traditionnels de l'opposition russe. Et c'est un style qu'on va voir se développer sur son blog d'abord, donc c'est un style assez humoristique, avec il utilise beaucoup de mèmes, de la culture internet à la fois russe et américaine. En même temps, c'est un style à la fois technique, avec, si on regarde son blog, il y a énormément de livres de comptes qui sont cités, de documents originaux, etc. Et donc, Navalny fait, si vous voulez, un peu une synthèse entre un contenu sérieux, voire très sérieux, très austère, et un style, je dirais, un petit peu humoristique dans le but d'amener la population à s'intéresser à la corruption, qui est un thème qui peut être particulièrement ennuyeux. Et donc clairement, Navalny crée ce style-là. Ça, c'est l'aspect positif de ce style-là. L'autre aspect peut-être un peu plus négatif et qui va tendre beaucoup de ses relations avec le milieu de l'opposition russe, avec le milieu de la presse en Russie en général, même de la presse proche de l'opposition, c'est que c'est effectivement quelqu'un d'assez abrupt, d'assez clair, et qui va donc rentrer tout au long de sa carrière dans des conflits assez violents dans certains cas et publics avec des personnalités de l'opposition et de la presse russe.
Vis-à-vis de certains partis de l'opposition, l'ombre au tableau, c'est la période pendant laquelle Navalny a voulu fusionner libéralisme et populisme.
Je dirais même plus que ça, la période qui est évidemment la plus controversée aujourd'hui encore au sein de l'opposition russe et en Occident, c'est quand Navalny essaye de réaliser une synthèse entre libéralisme, opposition à Poutine et nationalisme. Et donc à ce moment-là, il va prendre tout un tas de positions très controversées au sein des milieux de défense des droits de l'homme, au sein de l'opposition libérale traditionnelle en Russie, une position assez dure sur l'immigration, sur la situation dans le Caucase, en Tchétchénie. Alors, c'est quelque chose qui ne figure plus du tout depuis plusieurs années déjà haut sur l'agenda de Navalny. C'est des choses dont il ne parle plus beaucoup. La seule chose dont il parle encore, c'est la nécessité d'avoir une politique d'immigration assez restrictive en Russie. Mais cette page de sa carrière, qu'il n'a jamais réellement reniée, reste aujourd'hui encore quelque chose de très controversé dans certains milieux libéraux de défense des droits de l'homme en Russie. Même si aujourd'hui, je dirais que ces problèmes-là, Navalny se trouvant en prison, ne sont plus réellement très haut dans l'agenda ou dominent plutôt la question des violations des droits de l'homme envers Navalny.
Alors aujourd'hui, Navalny est en prison, sa fondation a été dissoute. Peut-il représenter un avenir pour la Russie?
Si vous voulez, dans l'année qu'on a vécue a été une année de transformation politique très rapide, très profonde en Russie, dans le sens d'un autoritarisme croissant. Dans le cadre de cette évolution politique-là, il me paraît difficile de dire que Navalny pourra jouer, en tout cas à court terme, un rôle important. Ce qu'il reste par ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi à inspirer un certain nombre de gens, même si cela reste minoritaire en Russie. Donc on peut espérer que les gens qui se sont reconnus dans le mouvement ou dans les valeurs du mouvement de Navalny puissent jouer un rôle politique à l'avenir en Russie, même si la répression extrêmement intense, extrêmement brutale à laquelle on assiste aujourd'hui en Russie rend cette possibilité assez limitée, je dirais.
Une autre question, et vous dites dans votre livre qu'il est difficile d'y répondre, mais Vladimir Poutine craint-il Navalny?
Oui, il est difficile d'y répondre puisque nous n'avons pas accès aux pensées de Vladimir Poutine ou même à son entourage proche hein, dans le cadre d'un régime autoritaire qui aujourd'hui est particulièrement fermé. Maintenant, nous, on en tire la conclusion que oui, Vladimir Poutine a peur de Navalny et ce qui nous permet de répondre ça, c'est que la répression qu'a subie Navalny personnellement, la tentative d'empoisonnement à son emprisonnement, ensuite la répression qu'a subie son mouvement et les manifestations de soutien à Navalny qui ont été très très lourdement réprimées. On n'avait jamais vu autant d'arrestations après des manifestations en Russie de toute l'histoire de la Russie post-soviétique. Tout ça nous indique qu'il y a clairement une crainte de ce mouvement et que ce mouvement, pour les autorités russes aujourd'hui, doit être écrasé.
Ce sera ma dernière question. Alexei Navalny est en prison. Il a survécu, on va dire miraculeusement, à une tentative d'empoisonnement, a décidé de revenir en Russie. On le voit dans votre livre, il y a un des intervenants qui explique que Alexei Navalny avait l'habitude de dire que s'attaquer à Poutine, c'était franchir une ligne rouge. Comment expliquez-vous finalement la vidéo sur ce qui a été appelé le palais de Poutine?
On sait, c'est ce qu'on a dit son entourage, et que la tentative d'empoisonnement a représenté clairement un changement de stratégie, une radicalisation de la part du régime russe dans la manière de traiter Alexei Navalny, et que selon des sources concordantes, on va dire, tout cela a amené Navalny à justement vouloir lui aussi se radicaliser et franchir cette ligne rouge qui consiste à investiguer directement sur la fortune de Poutine.
Et la réponse du Kremlin a été directe.
La réponse du Kremlin a été effectivement extrêmement directe et extrêmement brutale, mais sans doute parce que aujourd'hui, une des sources majeures de légitimité du régime politique, c'est bien la personnalité de Vladimir Poutine lui-même, et donc s'attaquer directement à la probité et à la personnalité même de Poutine constitue une menace directe fondant du régime.
Merci Morvan Lalouette.
Merci beaucoup.